Bonjour et bienvenue à tous dans la matinale
infernale.
La matinale infernale, c'est l'émission de Radio Graphite en partenariat avec les bibliothèques de Compiègne. Le principe, je vous le rappelle, il s'agit de former des amateurs de divers horizons à la création de chroniques pour la radio. Et on enregistre leur production sous forme d'émission, notre matinale infernale. Moi, c'est Aurore. J'anime ou participe déjà à d'autres émissions sur Graphite, comme La Voix de la Plume ou les rendez-vous culture des bibliothèques. Ce matin, avec moi, mes chroniqueurs sont des participants d'ateliers organisés à la bibliothèque Saint-Corneille tous les mercredis soirs. Et d'ailleurs, je devrais dire mes chroniqueuses, puisque notre équipe de ce matin est 100% féminine.
Yes,
en yes.
Girl power. Je souhaite la bienvenue dans le studio à Fatih la féministe.
Hello.
Patty.
Bonjour.
La marin baladeuse.
Bonjour.
Et Bertil.
Bonjour.
Allez, ce matin, on va commencer avec un sujet aussi chaud que votre café matinal. Enfin, je l'espère. C'est Fatih la féministe qui nous réveille. Et croyez-moi, ça va déménager.
Hello tout le monde, petite chronique du matin, histoire de bien commencer la journée pour vous parler tout azimut des stéréotypes dans notre système économique, genré et connecté, et pour vous proposer quelques conseils pour lutter contre eux. Les stéréotypes Kesako, eh bien, ce sont l'expression d'une forme simpliste de la pensée empreinte de préjugés que je m'en vais vous illustrer par des exemples concrets. Tous les sudistes sont en retard. Je ne suis pas sudiste, pourtant, Aurore, tu l'es peut-être.
Ah bah écoute, il faut croire. Hein.
Toutes les vieilles dames aiment les caniches, et pas les vieux messieurs alors ? Tous les citadins sont hautains. J'avoue, on me l'a dit un jour, j'étais hautaine. Alors excuse-moi de ne pas t'avoir calculé, mais je ne t'avais pas vue à cause de ma myopie, que je lui ai répondu. Et oui, je ne me la jouais pas hautaine, mais taupe. Bon, je digresse à fond. Revenons donc à nos moutons, ou plutôt à nos stéréotypes de genre cette fois-ci, de ceux qui nous intéressent. Le grand classique, les filles aiment le rouge ou à la Barbie, et dans le prolongement, allons-y gaiement, car il n'y a qu'un pas. La place de la femme est à la cuisine et au ménage. Son rôle est de s'occuper des enfants, sans avoir bien entendu le droit de vote, de détenir un CCP, de conduire, etc. Bon, d'accord, pour ces trois derniers points, c'était avant. C'était avant, pas si sûr. Avez-vous entendu parler des tradwives ? Parce que moi, elles m'interpellent. Le mouvement traditionnel wife d'origine ricaine se diffuse sur les réseaux sociaux. Il prône le retour de la femme mariée en tant que femme au foyer dédiant sa vie à sa famille, ses enfants et à son mari, avec dépendance totale et soumission à ses désirs, au risque de normaliser une relation abusive et donc inégale et donc potentiellement violente. Enfin, ça c'est mon esprit critique qui le dit. Mais au fait, elle garde quand même le droit de vote, nous traîne de tradwife ? Bien sûr que oui, sauf qu'elles voteront comme leur mari. Merci aux influenceuses en quête des 10K soit 10 000 abonnés. 1K égale 1000 followers ou suiveurs-suiveuses, parlons français bordel. Elles peuvent aussi courir après les M. D'ailleurs, plus simple, 1 M égale 1 million. En somme, les idées rétrogrades semblent payer. Mais gardons espoir quand même, car il faudrait d'abord évaluer l'ampleur de ce phénomène. Et puis, c'est peut-être qu'un simple coup de marketing pour le retour des robes style années 50 à la ligne en A, s'ayant si bien à toutes les silhouettes. C'est peut-être un simple coup de marketing pour un retour quotidien au salon de coiffure, aux recettes en berne à cause des cheveux au vent libres de toute contrainte. Enfin, recettes en berne, pas si sûre vu les prix pratiqués sur les chevelures féminines. Tiens, encore une discrimination. Avec une coiffure à la garçonne, mais à la condition d'être métamorphosée en homme, avec un petit H, je ne paierai que 15-10 balles. Sinon, c'est 50. Bah oui, t'es une femme, c'est pas comme si les inégalités salariales existaient encore, voyons. Mais je digresse encore à fond là. Eh bien, pas tant que ça, car les stéréotypes sont partout relayés gaiement. Même par notre système économique. Alors, allez, un seul exemple, avec vœux exemple, les t-shirts genrés d'une marque de petits bateaux pour ne pas la nommer. Bizarre ce marketing genré quand même, à l'époque des LGBTQIA+. Le capitalisme serait-il donc patriarcal ? Oups !
Et voilà.
J'ai lâché le mot. Vaste question qui mériterait une analyse plus pertinente que celle posée sur un simple comptoir de bar. En attendant, je lance un appel aux parents. Réveillez-vous, je vous en supplie, laissez vos enfants embrasser le genre humain avec un grand H. Mais comment ? Allez, Fatih, la féministe que je suis, s'en va vous faire quelques modestes propositions. Premièrement, suivez ce proverbe plein de bon sens. Tournez la langue 7 fois dans la bouche avant de parler, histoire de se détacher de nos clichés pour ne pas les transmettre. Prenez votre temps avant de parler, bon sang, mais oui, le temps c'est de l'argent, me direz-vous. Oups, c'est vrai aussi. Deuxièmement, faites participer à l'organisation de l'espace de vie commune tous les membres de la familia, sans distinction de genre. Quatrièmement, ne privilégiez plus le rose pour habiller bébé-fille et bleu pour bébé-garçon. Cinquièmement, achetez-leur des jouets non stéréotypés. Ou offrez-leur ces jouets stéréotypés puisqu'ils existent, mais indépendamment du sexe de votre enfant. Bien entendu, encore faut-il, me direz-vous, que les catalogues déposés dès septembre dans nos boîtes aux lettres soient non genrés. Il y a un mouvement dans ce sens, grâce aux associations telles que Oser les féminismes en France. En Allemagne et au Royaume-Uni, il y a la campagne Pink Stinks, abat le rose. En Australie, c'est le mouvement No Gender December, et en plus ça rime. Mais revenons en France. À l'école, dans le cadre de la campagne Jouer l'égalité, est mise à disposition des pros de l'enfance des affiches et du matériel pédagogique. En 2013, par contre, le programme ABCD de l'égalité n'a pas eu un franc succès. Certaines familles se sont imaginées une théorie du genre qui viserait à transformer les garçons en filles et vice-versa, et à initier leurs enfants à la sexualité dès la maternelle. C'est cela, oui. Mais pourquoi cette inquiétude obsessionnelle liée à l'éducation à la sexualité, pourtant unanimement jugée indispensable pour travailler la question de l'égalité fille-garçon, du consentement et in fine renforcer la santé publique? Et si nous nous inquiétons, et si nous nous inquiétions plutôt de l'éducation à la sexualité faite à nos ados par les sites pornographiques? Ben là, étonnamment, il y a moins de bruit. Donc, rassurons-nous, non, notre garçon ne deviendra pas homo parce qu'il joue à la dinette. Non, notre fille ne deviendra pas homo parce qu'elle joue au pilotage de drone. L'homosexualité se joue ailleurs. Et je vous invite à écouter ou réécouter ma chronique sur le rôle des hormones. Allez, une petite anecdote. Une fille en CE2, inscrite en athlétisme, s'initie au lancer de poids. Il y a les poids pour les garçons et il y a les poids pour les filles. Elle veut essayer un poids pour garçons, évidemment. Le professeur le lui interdit car elle pourrait se casser le dos.
Oh.
Or, la différence physique à cet âge est relative, voire inexistante. Arrêtons d'apprendre aux filles qu'elles ne sont pas capables de faire la même chose que les gars en arguant d'une prétendue infériorité culturelle et biologique, s'il vous plaît. Stop à la prise d'otage de nos enfants par les stéréotypes de genre. Marre de ces stéréotypes qui nous obligent à conformer nos personnalités à des attendus sociétaux biaisés. Il faut bien réaliser que ça ne fait qu'environ 150 ans en France que la femme revendique des droits par le biais des mouvements féministes. Ainsi, les femmes ont obtenu le droit de s'exprimer en tant que citoyennes, le droit de disposer de leur corps, de travailler en dehors du foyer et de faire condamner les violences perpétrées contre elles. Il faut bien comprendre aussi que les féministes ne revendiquent pas le droit d'être un homme avec un petit H comme les autres, mais des humains comme toi et moi.
Comme moi, Bertile.
Et comme moi, Patty.
Et comme moi, Aurore.
Oui, comme voilà. Nous toutes et tous. Il faut aussi préciser que la lutte féministe est présente dans toutes les cultures et nations au même titre que toutes les luttes pour la liberté et l'égalité humaine. Donc, non, être féministe, ce n'est pas être contre les hommes. Non, être féministe, ce n'est pas être matriarcale. Non, être féministe, ce n'est pas une honte ou démodée. Mais qu'est-ce donc ? Eh bien, suite au prochain numéro, ou plutôt dans une chronique prochaine.
Merci Fatih. Moi j'aime bien parce que je trouve tes arguments toujours très percutants. En plus, au fil de tes chroniques, tu nous expliques divers tenants et aboutissants du féminisme, de la lutte des femmes, de cette recherche d'égalité. Donc on comprend toujours un petit peu mieux le sujet au fur et à mesure qu'on t'écoute. Et voilà, je trouve ça toujours très édifiant.
Merci Aurore.
Donc je vous propose qu'on continue de tirer ce fil rouge avec Patty, la littérature, l'argent et nous. Patty, tu nous partages une de tes lectures, comme d'habitude. Mais là, on va bercer dans un univers fantasy, si j'ai bien compris, avec un sujet tout à fait en lien, celui de l'autonomie de la femme.
Eh oui.
Eh oui,
comment un roman fantasy nous parle-t-il d'argent ? Rien à voir avec le tableau de la bourse décrite avec minutie par Émile Zola ou encore avec les affaires de vol d'Arsène Lupin des précédentes chroniques. La fileuse d'argent de Naomi Novik, écrite en 2018, est parue en 2020 aux éditions Pygmalion pour la version française. Il a obtenu le prix Locus du meilleur roman de fantasy en 2019. Le titre, La fileuse d'argent, évoque une activité féminine. La fileuse est celle qui file des fibres textiles, qui fabrique ses fils avec l'argent de notre thématique. L'argent nous fait penser à un métal de valeur et à la monnaie d'échange qui détermine concrètement notre qualité de vie quotidienne. Et c'est bien de vie quotidienne dont il s'agit avec trois femmes, Myriam, Irina et Vanda, qui sont les personnages principaux de ce conte. Au cours de l'histoire, des liens se tissent entre ces trois femmes issues de milieux sociaux différents, des liens, des relations où l'argent tient une place importante. Qui sont ces trois femmes ? Myriam est une jeune femme dont le père est un prêteur d'argent, comme son grand-père maternel. Elle est précurseur dans un métier financier exercé par des hommes. Vanda est une jeune fille maltraitée par son père, qui est aussi à l'origine de la mort de cinq de ses frères et de sa mère. Elle va échapper à sa condition d'extrême souffrance et à un destin tragique en aidant Myriam qui lui tend la main à un moment où elles ont toutes les deux besoin de l'aide de l'autre. Irina est la fille d'un duc ambitieux dont la destinée est définie par son père. Jeune femme cloîtrée, effacée, d'une beauté ordinaire, elle épouse contre toute attente un jeune tsar inconscient, plus préoccupée de son image que par les devoirs qui incombent à sa responsabilité. De plus, il est habité par un démon avide et destructeur qui lui impose ses pulsions. C'est le hasard, à moins que ce soit le destin, qui semble provoquer la rencontre de ces trois femmes. Tout se passe comme si le pouvoir d'émancipation progressivement mis en œuvre par Myriam se communiquait à Vanda et Irina. À Vanda parce que Myriam l'embauche et à Irina parce qu'Irina va porter une couronne en argent dotée de pouvoirs magiques à la manière d'une aura. Cette couronne, Myriam l'a faite fabriquer par un bijoutier orfèvre de sa famille. Myriam est à la fois actrice de la circulation de l'argent parce qu'elle en prête et va le récupérer à l'échéance du prêt et actrice d'émancipation féminine. L'argent n'est-il pas un incontournable de l'émancipation des femmes ?
C'est sûr.
Bah oui, quand même. Les trois femmes partagent aussi des qualités de courage et de combativité contre les démons et contre les hommes quand ils se comportent mal. Par exemple, la violence gratuite du père de Vanda, l'avidité destructrice du mari d'Irina et, dans une moindre mesure, la faiblesse du père de Myriam. Ces trois femmes refusent de se soumettre. En ce sens, ce roman pourrait incarner la nouvelle mythologie d'une femme qui, sans être guerrière de façon caricaturale, c'est-à-dire sans avoir repris les attributs masculins virils bruts, est courageuse, déterminée et combative. Le livre nous parle d'argent de façon concrète et aussi symbolique, ce qui résonne avec notre présent. En effet, Myriam découvre sa capacité à gagner de l'argent pour améliorer les conditions de vie matérielles de sa famille, sortir de la pauvreté et un peu plus tard apprécier le confort et les bonnes choses de la vie. Elle découvre aussi successivement son pouvoir terrestre d'échanger de l'argent contre de l'or, puis son pouvoir magique de transformer l'argent en or. L'argent donne le pouvoir de base de se nourrir et de se vêtir pour avoir chaud. Le vêtement élégant qui suscite des regards admiratifs confère en plus un pouvoir social, celui de la reconnaissance par les autres de soi et de ses possessions. Le niveau symbolique du livre va plus loin, encore plus en profondeur, avec les éléments feu et eau, plus primitifs et plus fondamentaux que l'argent et l'or. Au cours de leur quête d'une vie meilleure et d'une plus grande liberté, Myriam et Irina sont mariées contre leur gré. L'une au tsar habité par un démon du feu destructeur et l'autre au monarque du pays des glaces, un monde parallèle au monde terrestre. Alors, non seulement elles vont se transformer elles-mêmes pour devenir des femmes réalisées, mais aussi par rebond, va s'opérer la transformation de leurs époux respectifs. Il s'agit d'une guerre vitale qui menace la vie de nos héroïnes et à laquelle elles ne peuvent donc pas échapper, mettant en énergie le combat à mort entre le feu brûlant, incarné par le démon du tsar, et l'eau, sous sa forme solide, la glace, représentée par le roi Starik, monarque du pays des glaces. La chaleur anime, met en mouvement. Cependant trop intense, le feu, celui des passions par exemple, brûle et détruit. Le froid inhibe, quand des facettes de l'être sont gelées, elles sont bloquées. Il faut que les facettes gelées, donc bloquées, fondent pour libérer l'eau et son courant vital. Le thème de la transformation de l'argent en or est présent tout au long du livre. L'or a davantage de valeur. Il a été l'étalon stable des références monétaires pendant longtemps, jusqu'après la Première Guerre mondiale. Vers la fin du livre, il est fait mention de fleurs d'argent veinées d'or. Ce livre aborde donc la relation entre l'argent et le statut de la femme, son autonomie, l'interdépendance entre l'homme et la femme. Il traite aussi de façon psychologique la transformation féminine intérieure qui donne accès à la puissance de l'argent. L'argent y est fortement symbolisé, car le roman fantasy est une forme de conte moderne pour jeunes adultes.
Merci beaucoup, Patty. Moi, personnellement, j'adore la littérature fantasy. C'est aussi pour ça que j'en écris, hein, d'ailleurs. Mais je trouve que quand on peut réconcilier comme ça les univers de l'imaginaire avec des problématiques qui sont bien réelles, le message y passe d'autant mieux. Et effectivement, c'est le principe des contes anciens. Je vous propose une petite pause musicale sur les thèmes qui viennent d'être traités. Nous aurons donc un duo, égalité homme-femme oblige, et un classique. Allez, on écoute Zazie et Axel Bauer, À ma place. Top.
Me glace, mon âme. faut-il que je t'apprenne?
Je ne demande rien.
Les eaux troubles où je traîne.
Où tu vas, d'où tu viens?
Faut-il vraiment que tu saches?
Tout ce que tu crains.
Le doute au fond de moi. Je n'attends pas de toi que tu sois la même. Je n'attends pas de toi que tu me.
Et nous voici de retour dans Graphite, dans la matinale
infernale.
Eh bien, je vais prendre la suite de nos chroniques en vous parlant d'un sujet autour de l'écriture, bien sûr, pour les auteurs débutants. Je vous l'ai dit dans une précédente chronique, pour moi, les personnages sont plus importants que l'intrigue elle-même. Cela étant dit, l'intrigue reste quand même un élément principal de la construction d'un roman, c'est évident. Dans un roman policier, l'intrigue est très souvent liée à un crime. Qui a tué un tel? Pourquoi? Comment? Ok. Mais il n'y a pas que les romans policiers dans la vie. Il est, à mon sens, primordial de bien déterminer les motivations de votre personnage à rentrer dans l'aventure ou à rentrer à accepter la quête qui se présente à lui. Même dans un roman policier, d'ailleurs. Si vous êtes détective, trouver le meurtrier est votre travail. Ok, mais il y a de plus en plus de romans d'enquête où les personnages principaux ne sont pas des officiers de police. Pourquoi chercherait-il donc à creuser une affaire?
Pourquoi?
Eh oui, pourquoi? Eh bien voilà, déterminer là où les motivations de vos personnages est primordial dans le sens qu'il y va de la crédibilité de votre histoire. Il s'agit du socle sur lequel repose votre roman. Et puisqu'on parle de crédibilité, vos personnages tout entiers doivent être crédibles. Leur personnalité est liée à leur histoire, à leur vécu, aux expériences qu'ils ont déjà endurées avant que votre intrigue ne prenne place. Exemple. Un personnage colérique l'est rarement par choix. Une personne autoritaire peut l'être par une rude éducation dans son enfance ou d'un besoin de contrôle absolu sur les choses. S'il n'est pas nécessaire de détailler d'entrée ces jalons qui font de vos personnages que vos personnages sont comme ils sont, il faut néanmoins penser à distiller ces bribes de passé qui permettent une meilleure compréhension au lecteur. Petit à petit, le lecteur doit pouvoir reconstituer le puzzle qui entoure vos personnages. Cela comprend tout ou partie de leur description physique, mais aussi de leur passé, de leurs blessures, de leurs ressentis, afin d'asseoir leur motivation à résoudre les énigmes qui vont paver le chemin de votre roman. Je vous dis ça parce qu'il m'est arrivé de lire un roman dans lequel la motivation de l'héroïne à résoudre un mystère se résumait à de la simple curiosité. Vous me direz pourquoi pas. Mais rien d'autre ne la liait aux énigmes semées d'embûches, et il y en avait, qu'elle devait surmonter pour éclaircir ce mystère. Résultat, l'autrice a dû jouer d'un subterfuge pour terminer son roman. Elle a opéré un changement de point de vue sur le tard pour que le lecteur sache quand même le fin mot de l'histoire, alors que l'héroïne elle-même ne semblait plus intéressée par la résolution de ce mystère. Mais alors dites-moi, si l'héroïne ne s'intéresse plus à ce qui l'a poussée dans cette intrigue, comment le lecteur pourrait-il être réellement tenu en suspens? Eh bien, c'est plutôt l'ennui hein, qui le guette, à l'image de notre héroïne qui s'est désintéressée du cœur même du roman.
Zut.
Je suis quand même allée au bout en me disant... On va savoir, mais j'ai trouvé que c'était... Peut-être ça aurait pu être, je sais pas, fait autrement, ou le changement de point de vue, il peut être intéressant, mais dans ce cas-là, on sentait vraiment le détour pour arriver à sa fin, quoi.
Bref, en tout cas, bien camper l'histoire de vos personnages permettra à votre intrigue de prendre du sens. Cela attisera l'empathie des lecteurs qui seront à fond. Et bien entendu, cela donnera du crédit à votre intrigue et de la profondeur à votre récit.
Merci Aurore pour tes conseils en écriture.
Eh bien, puisqu'à Graphite, dans la matinale infernale, on aime les histoires, moi je vais vous laisser la marin baladeuse nous emporter vers d'autres lieux, avec Proust et peut-être d'autres artistes encore.
C'est un petit chemin qui sent la noisette. Ce petit chemin n'a ni queue ni tête.
La marin baladeuse et gourmande, une invite littéraire à cheminer et déguster, peut-être. Continuons avec Marcel Proust sur les chemins lézardeux et hasardeux de notre belle Normande, de la Touque au Saint-Jean-Hiver. Côte de Grasse, Côte Fleurie, Côte de Nacre, Honfleur, Cabourg, Deauville, Trouville, Villerville, y sont les plus belles cités. Paysages de falaises escarpées, de pentes accores, côte élevée et coupée verticalement à la surface de la mer, la rendant difficile d'accès. Ces pentes accores nous mènent à des quartiers, notamment au quartier des Écors, celui des marins. Marins ? Vous avez dit marins ? Non, ça je l'ai déjà fait. Alors, Écors, ce mot vient-il de l'anglais to score, tenir les comptes d'un bateau ? Ou du mot accor, était utilisé dans les chantiers navals pour maintenir à la verticale les bateaux en construction ? On ne sait. Donc au pied des Écors, regardez bien. Voyez-vous se dessiner un sentier douanier à la crête de l'escarpement ? Il est d'une importance essentielle. Le seul moyen d'accéder de l'ancien village au hameau des pêcheurs et ensuite à la mer. Les pêcheurs ont leurs baraques qui s'accrochent sur les hauteurs à flanc de falaise. Pour accéder au quai, ils empruntent des escaliers de granit. Mais il s'agit d'un autre temps. Au milieu du 19e siècle, le paysage évolue. La route départementale numéro 16 voit le jour en 1842. Puis en 1860, le duc de Morny, frère adultérin de Napoléon III, fait sortir des sables et de l'eau. Tadam ! Trouville ! Sœur siamoise de Trouville. La Touque, le fleuve côtier, les sépare. Pour les relier, un pont s'impose en 1863. Ce sera le pont de l'Union, rebaptisé Pont des Belges en 1947, en hommage au libérateur. Douville, l'église tout en clocheton, épineuse et rouge, fleurissante comme un rosier. Enfin s'éveillait où apparaissait dans le ciel ombré, pareil à une légère et mince pelure, une lune étroite qu'un invisible couteau avait taillée comme le frais quartier d'un fruit. Deauville se part de son hippodrome actuel, les courses de plats. Événement mondain à ne manquer sous aucun prétexte. Et puis, Trouville a son port de pêche, qu'à Dieu ne plaise, Deauville aura son port de plaisance. Et son festival de cinéma américain, en 1975. Je suis sûre que vous pensez à un homme et une femme. Ah oui, ça a été tourné à Deauville, mais c'est le festival de Cannes. Bon. Que pense de Marcel de tout cela ? Du festival, rien, bien sûr, il n'a pu le connaître. En revanche, de la région, son avis est précis. Comme je suis fou de ce pays, le plus beau que je connaisse, je me permets de vous donner quelques indications. Trouville est fort laid, Deauville, affreux. Le pays entre Trouville et Villers, médiocre. Voilà qui pose le décor. Heureusement, il y a Criquebœuf et son église. Dites-lui de tendres choses de ma part. Et aussi un vieux poirier, cassé mais infatigable comme une vieille servante, qui maintient de toute la force de ses bras tordus par l'âge, mais encore verts, une petite maison du village avoisinant à l'unique fenêtre. Enfin, Villerville. L'hiver, un singe.
Un singe ?
Un singe ?
Un singe en hiver ?
Ah ! Voilà. Oui, c'est tout à fait ça. À Alors, d'abord, rien à voir, mais le sémaphore. Véritable quai de la flotte, 136 mètres de haut, dominant la baie de Seine. Puis la fameuse plate, embarcation à fond plat, tirée sur la grève par un cabestan, inventée à Villerville. Enfin, comme à Deauville, ici aussi, il y a le cinéma. Donc, en effet, Patty, le célèbre film tiré du roman d'Antoine Blondin, Un singe en hiver, réalisé en 1962 par Henri Verneuil, fut tourné dans le village. Il réunit deux immenses comédiens, Jean Gabin et Jean-Paul Belmondo. Vous pourrez retrouver les lieux devenus cultes en vous promenant dans le bourg. Entendez-vous cette voix si reconnaissable de Jean Gabin ?
Écoute, ma bonne Suzanne, t'es une épouse modèle. Mais si, t'as que des qualités. C'est le bonheur rangé dans une armoire. Et tu vois, même si c'était à refaire, je t'épouserais de nouveau. Mais tu m'emmerdes. Tu m'emmerdes gentiment, affectueusement, avec amour. Mais tu m'emmerdes.
Bon, l'imitation est un peu approximative, j'en conviens.
Gabin sort de ce corps.
Ce petit chemin qui sent la noisette nous mène de nouveau vers Deauville et son bouillon morni. Oui, oui, un bouillon à Deauville, comme à Paris. Normal, c'est le 21e arrondissement. Vous prendrez bien un œuf maillot ? À bientôt pour une nouvelle balade qui nous mènera à Begmail avec Reynaldo Hahn et toujours Marcel.
Merci beaucoup, la Mara en balade. Moi, j'aime beaucoup t'écouter quand tu parles. Je vois, j'imagine. Il y a de la poésie dans tes chroniques, je trouve.
Merci.
Mais si on laissait Bertine nous emmener encore un petit peu plus loin ce matin.
Bonjour auditrices, auditeurs, promenons-nous ensemble dans le monde du cosmos pour y goûter sa magie. Nous avons parlé dans les dernières chroniques de mécanique et d'intrication quantique. Nous avons évoqué la lumière, étrange onde particule qui défie la physique classique. Mais la lumière est aussi le messager extraordinaire du passé lointain du cosmos. À la vitesse de la lumière,
300 000 km/s.
C'est bien. Les événements du passé apparaissent aujourd'hui sur les détecteurs des astrophysiciens comme un livre ouvert sur les origines de notre univers. Ou presque. Oui, presque. Car personne aujourd'hui n'est remonté dans le passé jusqu'au Big Bang lui-même. Le mystère demeure entre le Big Bang et 380 000 années après lui. L'histoire de l'univers est celui du Big Bang, il y a 13,8 milliards d'années. L'univers est né dans une soupe cosmique extrêmement chaude, 1 avec 33 zéros degrés. Il s'emballe alors dans une folle expansion appelée inflation cosmique et libère une énorme énergie du vide qui génère la matière associée à l'antimatière. L'antimatière ? Voici déjà une première définition de l'antimatière. Matière composée d'antiparticules telles que l'antiproton, l'antiélectron qu'on appelle aussi positon, etc. L'antimatière est le jumeau maléfique et dévastateur de la matière car en entrant en contact, les particules et les antiparticules s'annihilent pour devenir lumière. Mais l'univers a trouvé très tôt, à la fin de la phase inflationniste, un moyen de briser la symétrie matière-antimatière. Et heureusement, sinon nous ne serions pas là. La nature, avec un grand N, a montré alors une toute petite préférence pour la matière. Vers le premier millionième de seconde, quand l'univers s'est refroidi à 10 000 milliards de degrés, la très grande quantité de particules et d'antiparticules se sont annihilées pour devenir lumière. Mais heureusement, pour chaque milliard de particules, il restera exactement une particule de matière sans antiparticule pour la détruire. Ainsi, nous existons et notre corps est fait de matière parce que la nature a eu un milliardième de préférence pour la matière par rapport à l'antimatière. L'antimatière n'est visible que dans les rayons cosmiques que nous recevons en permanence ou dans les accélérateurs de particules à haute énergie. Nous vivons donc dans un univers de matière. De quoi est fait l'univers ? Pour 5% de matière ordinaire telle que nous la connaissons, dont notre Terre. 26% de matière dite noire ou sombre. Elle est dite noire car nous ne savons pas ce qu'elle est. Nous savons juste qu'elle interagit avec tout ce qui a une masse. Enfin, 69% de l'univers, retenez 70%, sera plus facile, est constitué d'énergie noire découverte seulement en 1988. On n'en connaît pas la nature à ce jour, mais nous savons que l'énergie noire accélère l'expansion de l'univers depuis quelques milliards d'années. C'est encore un mystère, cette énergie noire. L'univers, il est fini ou infini ? Nous ne pouvons observer que ce que la lumière nous rapporte du passé avec sa vitesse constante de
300 000 km par seconde.
Bravo ! Et qui définit ce qu'on appelle l'univers observable.
Fayotte, Fatih.
Elle n'a pas changé de vitesse depuis tout à l'heure, la lumière.
Nous ne connaissons donc pas la limite de l'univers. Nous savons seulement que l'univers est en expansion et que cette expansion s'accélère et éloigne toutes les galaxies, c'est-à-dire les milliers de milliards d'étoiles les unes des autres. Ne serait-ce que notre petite Lune, elle s'éloigne de nous à la vitesse folle de 4 cm par an.
C'est vertigineux.
Le Big Bang n'a pas été une explosion dans l'univers, mais une explosion de l'univers. Elle ne s'est pas produite en un point unique, mais en tous les points. Oui, tous les points de l'univers étaient au début des temps assez proches pour se toucher, mais déjà à ce premier instant en train de s'éloigner à toute vitesse les uns des autres. Et la vie ? Comment des poussières d'étoiles inanimées issues de la soupe cosmique du Big Bang ont pu s'assembler pour donner des cellules vivantes ? Une chose est sûre, la vie a fait son apparition il y a au moins 3,5 milliards d'années, retenez 4 milliards d'années. L'Homo sapiens existe seulement depuis au moins 300 000 ans, cela représente environ 10 000 générations, c'est tout. Et rappelons-le, l'univers a 14 milliards d'années et nous sommes nés de poussière d'étoiles. La prochaine fois, nous resterons sur notre belle planète bleue pour nous enfoncer dans les espaces sous-marins, dans les abysses. Je vous parlerai de la diversité des fonds et de leurs trésors si convoités. Un monde incroyable et un enjeu diabolique. À bientôt.
Merci Bertil. Moi, je trouve ça toujours passionnant de se plonger dans les sujets autour de l'univers. Tout à l'heure, on parlait de littérature fantasy. Moi, perso, j'adore aussi tout ce qui est science-fiction, évidemment. Le space opéra particulièrement, un peu comme Star Wars, c'est un peu la base. Mais voilà, donc ça m'emmène... Les sujets autour de l'espace.
Ça t'emmène vers les étoiles ?
Ouais, j'aime bien.
Mais tu n'es qu'une poussière d'étoiles.
C'est beau, c'est beau. Et bien voilà, cette émission touche à sa fin. Comme d'hab, on va se quitter en musique. Pas n'importe laquelle, vous allez voir. J'espère bien que vous allez d'ailleurs avoir un petit regain de nostalgie en écoutant ça. Merci à mes chroniqueuses de ce matin. Bertil, Patty, Lamarin, Fatih. Merci à vous, chères auditrices et chers auditeurs. Je vous dis à bientôt pour une prochaine émission de la matinale
infernale.
Et je vous laisse avec le générique TV de la série Star Trek. Allez, à l'ancienne.
Merci,
c'est ça qu'on aime.
Merci, Aurore.
Merci, Aurore.
Espace, frontière de l'infini vers laquelle voyage notre vaisseau spatial. Sa mission de 5 ans, explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies, d'autres civilisations, et au mépris du danger, avancer vers l'inconnu.